Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr. Et oui, comme d'habitude, chaque semaine, votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Aujourd'hui, un podcast 86, vous le savez, hein, en tant que premier mercredi du mois, podcast qui va faire dresser le bilan du mois précédent, le bilan du mois de janvier 2009. Et pour ça, eh bien, bien évidemment, autour de la table à repasser la plus célèbre d'Internet désormais, Julo, Angel, Raan, Caf, toute la fine équipe qui est prête, même si pour l'instant, ils sont complètement muets. Messieurs, vous êtes en forme ?
En pleine forme.
Parfait. Bon, alors justement, pour ce premier bilan mensuel de l'année 2009, eh bien, quelques petites nouveautés, vous allez voir, histoire que vous puissiez mieux vous rendre compte un petit peu du découpage de ce podcast. Alors, nous allons avoir l'info du mois, celle qui nous a le plus marqué ici. Nous allons avoir l'homme du mois, celui, ça peut être la femme aussi, hein, mais ce mois-ci, c'est un homme. Vous allez voir, celui qui a marqué l'actualité par des phrases d'une pertinence incroyable, ou d'une surpuissance
cosmique.
Voilà, célesto-cosmique, j'ai envie de dire. Nous parlerons aussi de nos coups de cœur, de nos coups de gueule, et nous aurons, vous allez voir tout à l'heure, des premières impressions de jeux forts comme Street Fighter 4, oui, on a pu y jouer, Killzone 2, Mad World, Batman, Fear 2, Battleforge, et bien évidemment, les infos les plus importantes, celles qu'il fallait ne pas rater en janvier 2009. Nous allons donc commencer avec ce qui nous a paru être l'info du mois, l'info qui en tout cas le plus de répercussions, celle qui est la plus importante, peut-être pas dans le fond, mais en tout cas elle marque l'histoire. Julo, c'est Wii Sport qui devient le jeu le plus vendu de l'histoire et qui donc détrône Super Mario Bros. Après quand même 15 ans de règne.
Eh bien oui, le truc, alors après c'est que tout le monde va te dire qu'effectivement il était vendu avec... Avec la console, mm-hmm. Mais Super Mario Bros l'était aussi.
Et oui. Ah,
voilà. Donc pour replacer les chiffres, donc Super Mario Bros c'était 40,24 millions d'unités vendues.
C'était intouchable, hein, c'est-à-dire que même le suivant était à des dizaines de millions d'exemplaires.
Bah voilà. Et Wii Sports vient juste de passer devant avec 40,5 millions.
Ouais, et puis il risque de continuer à bien se vendre puisque Wii n'est a priori qu'à mi-parcours, voire peut-être
exactement.
Même moins.
Donc voilà, on n'a pas de doute à se faire là-dessus. Il va être très difficile à rattraper comme son prédécesseur. Peut-être qu'il ne sera jamais rattrapé d'ailleurs.
Mais ce qui est quand même intéressant, ouais, c'est que c'est quelque part, hein, c'est un peu la fin d'une époque, hein, aussi. Alors certes, le jeu est vendu avec la console, mais pas dans tous les pays. Au Japon, il est vendu hors bundle et il cartonne de manière colossale. Donc on peut très bien imaginer que même s'il n'était pas fourni avec la Wii, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il aurait probablement très bien marché. On voit que le marketing aussi de Nintendo est très fort dessus et que c'est un jeu visiblement qui fédère beaucoup de personnes. Donc ça se trouve, c'est l'avènement du jeu casual sans que ce soit péjoratif, CAF.
J'ai lancé au moins 3 fois, mais c'est peut-être parce qu'il y a sport dans le titre. Je suis pas sûr.
Moi, j'y ai joué à mort parce que le jeu de golf, je le trouve génial.
Ouais, le jeu de golf,
très
bon.
Bien, ouais. Mais
le bowling, les mecs, vous y connaissez rien.
Non, le jeu de golf est vachement plus.
Non, tu vois, tu connais rien. C'est le bowling.
Ok, d'accord.
Non, mais ça veut dire qu'effectivement, tous les jeux, je trouve, a priori, sauf le jeu de boxe qui est un petit peu limité, c'est peut-être pour ça qu'on aura un Punch-Out qui va arriver.
Même raté, on va dire.
Oui, ça c'est clair. Ils sont tous assez agréables, faciles à prendre en main. Moi, je sais que le tennis remporte un succès colossal. Mm-hmm. Et c'est amusant de se dire qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout le jeu vidéo. Et comme il y a des vingtaines d'années où, à cette époque où les jeux s'appelaient, quand c'était un jeu de voiture, ça s'appelait car, quand ça s'appelait un jeu de foot, c'était soccer, et bien là, ils viennent, ils disent t'as le jeu là, tennis. Là, je sais pas quoi, en parlant du jeu de tennis de la Wii, donc de Wii Sport, et tout le monde a envie d'y jouer parce que tout le monde a vu la pub et que ça a l'air facile pour une fois d'y jouer.
Et surtout, Angel, si je peux me permettre, surtout c'est générationnel, c'est multigénérationnel, c'est-à-dire il n'y a pas qu'une seule, c'est là pour le coup, c'est vraiment de 7 à 77 ans. D'ailleurs, Nintendo il a bien compris parce que si tu regardes bien dans les pubs, à chaque fois il y a toujours le gamin avec la mère et derrière la grand-mère qui à la fin, oh là là, ça a l'air marrant, moi aussi je veux jouer.
Ouais, c'est vrai.
Genre, regardez les gars, tout le monde peut y jouer.
Et ils ont tous les dents super blanches.
Il y a pas que dans les pubs.
Trop fake cette pub.
Il y a pas que dans les pubs, moi je l'ai vécu en direct là,
moi aussi,
cette situation avec des yeux.
Non, c'est vrai que le marketing est intelligemment fait et surtout il prend. Et surtout, on peut se dire qu'avec ces chiffres-là, Super Mario Bros, donc désormais numéro 2, mais derrière sur les top 10 des jeux les plus vendus de l'histoire du jeu vidéo, bah, c'est simple, hein, c'est que du Nintendo. L'avènement de ce Wii Sport prouve bien quand même que quoi qu'il advienne, quelles que soient les époques, Nintendo, même quand parfois il a un peu de mal avec ses consoles, bah, continue à vendre par pelletée entière ses jeux.
Hein. C'est une belle revanche pour les années 90. On va dire.
C'est clair. Voilà, on va maintenant désormais passer à l'homme du mois. L'homme du mois, il s'appelle Kaz Hirai. Et alors Kaz Hirai, en ce moment, là, depuis quelques semaines, en janvier en tout cas, bah, il est on fire, hein, j'ai envie de dire.
Kaz Hirai, il déraille.
Pour pas mal,
rappelle pour qui il travaille déjà, parce qu'il y a des, tu vois, on parlait de Nintendo, tout ça, mais...
Alors Casey Ryan, c'est simple, hein. Aujourd'hui c'est désormais le président de Sony Computer Entertainment, il a succédé à Ken Kutaragi, donc c'est la voix officielle de la PlayStation, hein, quelles que soient les PlayStation, et donc en ce moment, bah, il nous a s'est permis quelques petites envolées. Il y a deux informations essentielles qui nous ont attirés. C'était la première, le manque de, longévité de la Xbox 360. Alors là, il disait tout simplement qu'il n'avait pas de mots. Texto, il disait, il faudrait un mot qui puisse exprimer le manque de longévité. La dernière fois que j'ai vérifié, ils n'ont jamais eu de console qui n'est restée sur le marché plus de 4 à 5 ans. Bah, à la fois, la dernière fois qu'il a vérifié, c'était la première console de Microsoft aussi. Hein. Donc c'est sûr que bon...
Attends, ils en sont quand même à la troisième. Oh mais... mon Dieu, ça fait, c'est que dalle quoi, si l'on marche sur le marché.
C'est ça. Donc bon, on a trouvé ça peut-être un petit peu facile, un petit peu rapide. D'autant qu'il faut mettre en perspective les propos de Robbie Back, qui lui s'occupe de la Xbox 360 et qui lui parlait justement, pour le cycle de vie de la Xbox 360, de cycle de vie de cette génération de consoles. Et je ne parle pas seulement de Xbox, puisque j'inclus également la Wii et la PS3, sera probablement un petit peu plus long que pour les générations précédentes. En gros, même chez Microsoft, on prépare bien évidemment le successeur de la 360. Mais on n'est pas plus pressé que ça. À la fois, on peut le comprendre, puisque la Xbox 360 est aujourd'hui deuxième des charts, donc top 3 des 3 consoles de salon, alors qu'elle était bonne dernière sur la génération précédente avec la Xbox. Elle avait donc plus d'intérêt à tirer vite. Mais Casey Ryan ne s'arrête pas là. Car Casey Ryan, comme dirait Angel, parfois des rails.
Même... Non mais tu vois, alors, la deuxième fois
Angel,
ça marche
non,
pas.
Non, non, Angel, Angel sourit, mais voilà.
T'as pas mon génie comique.
Tu es fantastique. Et donc après, il nous sort quelque chose que je trouve encore plus incroyable. Il dit, la PlayStation 3 est intentionnellement dure à programmer. C'est fait exprès, en gros. Bon, très bien. Et c'est alors, pourquoi, messieurs, à votre avis? Pourquoi ouais. C'est, on fait une console
parce
exprès
que
qu'elle soit
dur,
dure
non, il y a plein de vannes à faire, mais...
Non, mais on se pose encore la question. Voilà, je cherche, moi, personnellement.
Eh bien, Angel...
Parce que sinon, c'est pas drôle. Tu vois, je sais pas quoi, tu vois, ces trucs-là.
Bah, je sais que ça amuse un pote, mais c'est tout, je crois qu'il est tout seul.
Non, mais c'est tellement débile comme déclaration, bah, sans déconner, que bon, voilà quoi. Enfin, je pense pas que ça serve à quelque chose qu'on cherche une explication.
Bah, pourtant, lui, il en a une, hein, mais Casey Ryan.
Kutaragi avait déjà dit un truc dans le genre à l'époque de la PlayStation 2. Enfin, c'est pas une première quand même chez PlayStation pour expliquer.
Mais t'as une autre façon de le dire, je sais pas. Elle est tellement. Il avait dû dire un truc, elle est tellement fantastiquement géniale qu'il faut la dompter plus longtemps, etc. À la limite, là, ça passe. Mais
oui, c'est ça, c'est le choix des mots.
Voilà.
Bah alors, en parlant des mots, je vais vous citer carrément la citation de Casey Ryan. Il dit nous n'avons pas envie de fournir du facile à programmer aux développeurs. Déjà, j'ai envie de dire sympa. Cela signifierait que n'importe qui sera en mesure de tirer parti de la console. Déjà, quand on voit le prix du kit, hein, pas n'importe qui. Hein. Et la question serait alors, que ferez-vous durant les 9 ans et demi restants? Bah, des bons jeux qui marchent bien et qui sont beaux d'entrée.
Des jeux, quoi, déjà.
Voilà, ça nous surprend un petit peu. C'est une sorte de manière habile et marketing de dire le meilleur est à venir.
Tu comprends pas son génie marketing à Kaz, c'est tout, quoi.
C'est vrai. Rao.
Ça résume surtout un peu tout le business de la technologie. Alors que, je sais pas, les jeux, c'est pas seulement de la technique.
Bah tout à fait, et on pourrait se dire que justement, pourquoi attendre 3-4 ans que des développeurs trim se fassent fouetter dans des, je sais pas, dans des petites chambres jusqu'à ce qu'ils enfin trouvent comment exploiter le cœur de cette machine, ce monstre de technologie? Ce serait bien d'avoir des jeux qui en foutent un max plein les mirettes et qui soient agréables et fun avant, Angel.
Non, mais là c'est surtout complètement l'opposé en plus de la politique Microsoft qui eux fournissent à chaque fois des consoles plutôt faciles à programmer, basées plus ou moins sur une architecture PC. Et là,
mais non, mais c'est surtout qu'en plus Microsoft, ils balancent un ensemble de logiciels, etc. Tout est fait pour faciliter la vie des mecs. Ils ont des équipes pour aller aider les développeurs, ce que fait Sony aussi. Hein. Mais bon, ils se tirent des balles, les gars, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Et des fois, il faut les outils au tout début de la PS3, ce qu'on appelle les compilateurs, les logiciels pour programmer, etc. Ça plantait, c'était long. Ils avaient pas les bons outils pour rechercher les bugs, si tu veux.
Ah, c'est bien.
Et c'est pratique quand tu fais des jeux vidéo, genre de truc. Donc c'est, tu creuses un trou mais on ne file pas de pelle, c'est un concept, quoi.
J'aime bien ça. Tu creuses pas de trou mais on ne file pas de pelle. Il faut avoir des ongles, donc.
Mais voilà, et ils ont des ongles, les programmeurs PS3, je crois.
D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, on y va y venir dans quelques instants. Il y a quand même des jeux qui sont assez impressionnants sur PS3, mais c'est vrai que, bah, visiblement, il faut se galérer et ça a l'air d'être normal.
En plus, c'est faux, entre guillemets, puisque le software continue d'évoluer, donc les outils sont de plus en plus, on va dire, programmeur friendly, mais la marge de progression, elle reste colossale, quoi.
Puis j'aimerais quand même souligner une chose, c'est qu'a priori, la console est quand même faite pour les joueurs. pas pour prendre la tête aux développeurs et qui se disent « T'as vu, au bout de 5 ans, ça y est, je commence à l'utiliser. Ouais, » On s'en fout un peu en tant que joueur.
Mais ça, à l'époque de la PS2, c'était déjà le cas. Quoi. Enfin, les premiers jeux PS2, souvenez-vous, quoi, tous les développeurs disaient « Programmer là-dessus, quoi, c'est vraiment une tannée. » Sauf qu'à l'époque, ça faisait pas autant de bruit parce que la Xbox n'était pas encore sur le marché. En fait. Et donc finalement, mettre les mains dans le cambouis, bah, t'étais un peu obligé de toute manière. Donc tu pleurais. Tu pleurais toutes les larmes de ton corps, tu pleurais des larmes de sang, mais t'étais bien obligé de le faire. Là maintenant, on leur file un truc. En gros, on leur file des Legos. Alors que donc forcément ça peut faire la pilule passe beaucoup
mieux.
Non,
attends, faudrait rappeler à Sonic la dernière console où on a dit oh, elle est dure à programmer, c'est pas facile et tout, c'était la Saturn. Ça s'est pas très bien passé pour eux.
Non mais c'est ça, c'est que sur PlayStation 1 comme sur PlayStation 2, Sony était largement leader et qu'effectivement tous les éditeurs étaient amenés à travailler parce que c'était là où il y avait la plus grosse base installée. Et effectivement aujourd'hui quand on voit le succès de la Wii et qu'on voit que la Xbox 360 reste devant largement de la PS3, si en plus les développeurs savent que c'est une tannée à développer, ça fait un peu ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a du multi, c'est un petit peu mieux fini sur Xbox 360 généralement que
ça
sur
dépend,
PS3.
Mais après,
pas surtout, oui,
ça
pas surtout.
Ça fera du business pour les programmeurs.
Et la version de référence, généralement, ça a tendance à être la 360.
Parce que c'est plus facile.
Et y compris, enfin, on le voit dans les développements, mais aussi bizarrement, enfin, pendant les présentations. Même pendant un jeu multi, généralement, on a tendance à te présenter le jeu 360 parce que de toute façon, c'est celui qui est le plus la version 360 parce que de toute façon, c'est celle qui est la plus avancée, quoi.
Ouais, c'est quand sûr. C'est multi PC, c'est souvent la version PC aussi, même quand elle sort pas, tu vois.
Donc voilà, l'homme du mois de janvier 2009 pour nous, c'est définitivement Kazirai. Alors peut-être qu'il sera l'homme de l'année, hein, on verra ça dans 11 mois
il
maintenant.
Il est on fire en tout cas.
Mais pour l'instant, en tout cas, il démarre bien l'année. Voilà, on va passer à nos coups de cœur et coups de gueule. Et avant notre coup de cœur, j'aurais envie de commencer avec le coup de gueule, Raon. Et on ne peut pas faire autrement que d'évoquer cette... des informations massives, hein. J'aurais presque envie d'enlever le point d'interrogation avec France 2 et son reportage sur le jeu vidéo en général, Dofus en particulier, et tout ce qu'on a pu y voir et y lire.
C'était donc dans le grand format du 20h de France 2, donc pas vraiment un endroit minimaliste à la base. Et alors le sujet a été lancé comme traitant des jeux vidéo en ligne et de l'addiction, mais en réalité, ça parlait pas du tout de ça, ça parlait des factures téléphoniques. Et donc du prix des jeux en ligne, avec comme exemple principal Dofus. Et donc le reportage lui-même, on va pas refaire tout le reportage pas à pas, mais il y a des choses, des contre-vérités qui ont été énoncées, comme le prix par exemple qui était dit à l'écran à 27€ par mois alors que c'était pour 6 mois, etc. Des tas de choses comme ça, donc des informations qui sont simplement fausses.
Donc destinées à faire du sensationnalisme, quoi, en fait.
Oui, et des questions assez orientées, un montage orienté, et même aussi à un moment donné, une image qui, moi, m'a particulièrement frappé, qui est quand même des lettres blanches sur fond noir en plein milieu du reportage qui durait 3 ou 4 minutes.
Il est temps de riposter,
voilà. Donc en gros, c'est la guerre.
Ouais, c'est ça.
Les jeux vidéo, c'est super dangereux, etc.
Moi, je tiendrais aussi à souligner quand même l'introduction même du reportage. Avant même de rentrer dans le reportage, Laurent Delahousse, ouais, le présentateur, qui pose le débat, peut-on parler d'addiction avec le jeu vidéo? La réponse est oui.
Et là, le reportage part.
Quel débat, si la réponse est déjà donnée.
Donc, attention, entendons-nous quand même. J'aimerais bien aussi rajouter un truc, parce qu'il y a eu énormément de courriers et de réactions, soit sur les forums chez nous, soit ailleurs, soit dans notre mailbox. La question n'est pas de savoir si la télévision doit alerter sur les excès du jeu en ligne. On sait qu'il y en a, on sait qu'il faut faire attention avec ça, qu'il faut surveiller ses enfants, etc. On ne peut pas faire n'importe quoi n'importe où. D'ailleurs, Dofus, en l'occurrence, c'est du 12+. Si un gamin a 8 ans, et dans le reportage, la mère dit « je comprends pas, ils n'arrivent pas à se réguler tout seuls ». Mais enfin, attends, ils ont 10 ans, un enfant, il n'est pas fait pour ça, quoi. Donc, c'est les parents qui doivent le faire. Ça, déjà, c'est une première chose. Et donc, la question n'est pas de remettre en cause ce que le reportage essayait de faire, c'est-à-dire d'alerter l'attention des parents, je pense, sur les dangers éventuels du jeu en ligne pour les plus jeunes, mais sur la façon dont c'est fait, avec un message qui joue la carte de la terreur et de d'effrayer les gens qui ne le savent pas en mettant des fausses informations.
Et sciemment, hein, puisqu'on voit, tu parlais des factures téléphoniques, les factures téléphoniques qui sont présentées par la mère dans ce reportage ne sont pas ses propres factures téléphoniques.
Non.
C'est quand même bizarre, ça s'appelle juste tout simplement de la manipulation.
C'est du bidonnage, quoi.
On appelle ça de la propagande, purement et simplement.
C'est du bidonnage, quoi. Enfin, bah, moi, j'irai pas jusque-là. Hein. Je suis pas aussi extrémiste que vous. Quoi. C'est du bidonnage, comme il y en a eu souvent. C'est scandaleux. Hein. Généralement, ces mecs-là, enfin, ils devraient rendre leur carte de presse. Mais
bien sûr, si tu nous écoutes.
Mais c'est du bidonnage, quoi. Tout le monde l'a pratiqué. À commencer par PPDA. Même les plus grands.
Ah oui, mais bon, enfin voilà. C'est-à-dire que
c'est pas pour autant qu'il faut pas réagir et le souligner en tout cas.
Ah oui, non, mais c'est super important. Enfin, c'est quand on voit ça aux 20h de France 2, c'est évidemment la réaction de tout le monde, ça va être bon, ça parle de jeux vidéo, c'est pas non plus la fin du monde. Mais à côté de ça, quand tu vois ce qui se passe sur France 2 par rapport à Gaza ou par rapport à d'autres trucs, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel.
Et puis, il faut d'autant pas oublier aussi que justement, tu le disais justement, le journal télévisé de France 2 de 20h, c'est regardé par une très large audience, des gens qui sont absolument pas experts du jeu vidéo et qui du coup vont prendre ça comme argent comptant et vont pas aller chercher plus loin et vont donc se dire ou garder à l'esprit que le jeu vidéo décidément qu'est-ce que c'est que ce média
que ça coûte super cher aux parents, ce qui est pas forcément le cas,
que c'est véhiculé comme des virus, voilà. Ce qui est dit dans le reportage
exactement, et que bon, c'est perte de contrôle total des enfants, comme
voilà. C'est de la drogue, hein, tout simplement,
c'est ça. Y a moyen de soulever les problèmes qui sont réels sans pour autant mentir, voilà. Donc moi, ce qui m'emmerde le plus dans cette histoire, c'est que ça ment aux 20h pour faire passer des messages dont on ne sait même pas s'ils sont vraiment valables. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de doute laissé à cette histoire d'addiction, alors que médicalement, il faut quand même arrêter. L'addiction, c'est un truc très particulier. C'est un terme très particulier, et j'invite tout le monde à aller voir sur le net quelle est la définition réelle de l'addiction, comment elle fonctionne. Les jeux vidéo, ce n'est pas tout à fait la même problématique.
Caf.
Bah, en fait, le truc qui m'a choqué, c'est les réactions des gens en fait sur les forums, en général justement à notre réaction en fait, et où là où tu te dis qu'effectivement il y a encore un boulot énorme d'éducation sur toute une frange de la population qui a des idées fausses, mais effectivement nous dans notre petit monde on pense que c'est réglé, que voilà, les gens ont compris ce que c'était, ont compris les dangers, etc. Si on pousse plus loin, ont compris le rôle des parents aussi, mais ça c'est encore un autre débat
qui d'ailleurs n'était pas mentionné pas du à tout. Un seul instant dans
alors
le reportage
que, alors que
pas
c'est
de
quand
sensibilisation.
Même c'est le truc fondateur, et là j'étais vraiment pas paniqué mais atterré, quoi. Je me suis dit, ah oui d'accord, il nous reste en fait tout ça comme travail à faire, donc voilà, c'est
le premier pas pour tout le monde. Si vous rencontrez des parents qui peuvent se poser ce genre de questions, qui ne connaissent pas le jeu vidéo et qui légitimement peuvent avoir peur à la suite de ce genre de reportage ou d'autres choses, envoyez-les sur Pédagogeux, qui est un excellent site pour ça, qui est parrainé par l'État, qui fait un travail sérieux. Il y a d'autres sources d'informations, et c'est pas la peine non plus de notre part de nous braquer par rapport à ces gens-là, parce que c'est pas comme ça qu'on va avancer.
Exactement. Tu veux compléter, Angel ?
Alors moi, je vais y aller de ma théorie conspirationniste. Il faut pas oublier que à l'heure actuelle, il y a une frange de la population qui se détache à mort de la télévision à cause des nouveaux médias, Internet, justement les jeux vidéo et tout ça. Et il se trouve que justement, ce sont les jeunes. Donc tu vois, quelque part, la télé a envie de ramener cette frange de la population qu'elle est en train de perdre, vu que de toute façon, elle perd une frange globale de la population à cause de la TNT.
Comment te dire que je me demande comment ce genre de reportage peut ramener des jeunes à la télévision.
Bah, c'est-à-dire que si le gamin n'a plus le droit d'aller sur Internet et s'il n'a plus le droit de jouer aux jeux vidéo, il ne reste plus grand-chose pour se marrer, on va dire, que des livres. Mais ça, franchement, tu vois, dans les familles de beaufs qu'on a vues, des livres, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ou alors, tu vois, ça doit pas aller super haut.
N'insultons pas ces familles, nous ne les connaissons pas.
Non, enfin,
et nous les respectons.
Certaines familles,
car nous les... car nous les aimons, bien évidemment.
Mais tu vois, il reste plus que la téloche,
ouais.
Tu vois.
Mais oui, mais le problème
mais
de la...
Attention, j'ai bien dit, c'est ma théorie conspirationniste. Moi, je fais partie du réseau.
Le problème de la télévision...
Rousseau, que je viens d'inventer.
Non, il existe.
Le non, problème c'est Voltaire, mec.
Mais il y a aussi un autre truc. Le problème de la télé, c'est que ça devient essentiellement un écran maintenant et donc une fenêtre dans laquelle tous les contenus sont diffusables, jeux vidéo, Internet et aussi télévision. Mais c'est vrai que de plus en plus, pour les générations actuelles, bah, ça passe pas mal par Internet. En tout cas, voilà, vous l'avez vu, on réagit. N'hésitez pas, à chaque fois que vous êtes témoin de choses qui vous choquent un petit peu sur la manière dont le jeu vidéo est traité, nous, en tout cas, ça nous paraît vraiment important d'apporter une réponse avec retenue, poids, mesure, mais à la hauteur de l'importance que peuvent avoir ces informations. N'hésitez pas à nous envoyer des mails pour nous en faire part.
Rédaction@gameblog.fr.
Exactement. On fera le maximum pour relayer ce genre d'informations et faire en sorte calmement, sereinement, paisiblement, pour que le média jeu vidéo puisse avancer aussi, comme il se doit, calmement. On va adoucir un petit peu la conversation et parler de nos coups de cœur, et de notre coup de cœur en l'occurrence. Il date d'il y a quelques jours à peine. Il est arrivé sur Internet, il est arrivé aussi sur le PlayStation Network, et Xbox Live, en 1080p. Il s'agit de la dernière vidéo, le tout nouveau trailer de Final Fantasy XIII. Et il y a deux choses qu'on pourrait séparer, il y a le ressenti général et il y a la baffe graphique. Et à ce niveau-là, Julo, je crois que ça calme tout hein, quand même.
Mais je pense qu'en fait que Kazirai a dû filer des astuces de développement à Square, je vois pas ce que cela peut être d'autre.
Bon, à la fois, ça fait quand même 6 ans qu'ils bossent dessus. Hein.
Ouais, non, c'est enfin, ça. Bah, oui, ouais. Voilà, on peut s'attendre à se prendre une baffe et effectivement, on se prend une sacrée baffe. Quoi.
Y a quand même
c'est
assez,
juste magnifique.
Il y a quand même assez peu d'images de gameplay. Hein. Ça reste quand même beaucoup de cinématiques, même si
bah, on voit quand même, hein. On voit quand même les combats. Mmh.
Très dynamique.
Voilà, c'est ultra dynamique, c'est plus dynamique que ça l'a jamais été dans un FF. Mmh. Et c'est surtout super classe, super bien foutu, super beau quoi. Moi je trouve ça vraiment.
Moi Angel. J'ai pas fait un RPG de ma vie parce que je supporte pas ça, mais j'ai trouvé ça super beau. Mmh. Non, c'est fun. le tarel. Alors attention, ça veut pas dire que je vais en faire un, mais franchement, pour un RPG par rapport à tout ce que j'ai vu avant sans être expert, je trouve ça vraiment super beau. Mmh.
En tout cas, pour le gameplay qu'on voit, c'est déjà intéressant. Et puis pour le reste, bon, bah voilà quoi. Il y a toujours cette imagination dans les graphismes, dans tout ce qui est développé.
La direction artistique, quoi.
Ouais, la direction artistique est juste géniale.
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, on voit peu de séquences de combat à proprement parler, mais néanmoins, il y a un équilibre entre cinématique pure, on va dire image de synthèse, et cinématique moteur de jeu. On voit pas mal l'héroïne, par exemple, ou ses amis, le mec avec la grande veste blanche, etc. Là, c'est vraiment du jeu pur, hormis un petit passage. C'est vrai que techniquement c'est assez beau. Alors par contre, c'est assez amusant.
Ouais, ça me casse pas plus la gueule que Resident 5 ou.
C'est un autre
Metal
style.
Gear 4.
C'est vraiment un autre style.
King Game. Hein.
Ah ça c'est sûr. Mais par contre, quelque chose qu'on pourrait souligner, qui est assez fréquent dans le développement général japonais, c'est une attention moins forte par rapport aux occidentaux sur le travail des textures, le côté granuleux, un peu à la Gears of War.
Les effets de matière, les
voilà.
Effets spéciaux.
Voilà. Mais
ça,
par contre, c'est une richesse à l'image. Il y a des milliards de choses qui se passent au fond, en arrière-plan. Enfin, c'est bluffant. C'est une manière de développer différente, une autre orientation.
Ouais, puis enfin c'est surtout technique, je pense. Enfin ils ont pas, c'est toujours la même histoire qu'on rabâche maintenant depuis quelques temps entre le décalage qu'il y a entre les méthodes de développement japonaises et les méthodes occidentales et l'attention à certains détails. En Occident, on a plus l'habitude d'utiliser beaucoup d'effets, de pas forcément mettre beaucoup de polygones sur des personnages, etc. Mais de se pencher plus sur d'autres façons de faire. Et au Japon, pas. Ils sont plus traditionnels, j'ai l'impression. Quoi. Mais bon, ça se voit graphiquement. Quoi.
En tout cas, pour conclure sur cette vidéo, peut-être le petit bémol, c'est définitivement beaucoup d'explosions, des fusils, ça tire dans tous les sens. Ouais. C'est moins héroïque fantasy que par le passé, clairement.
En même temps, c'est un trailer pour le côté explosif. C'est un trailer, donc ils ont voulu faire un truc à l'américaine, quoi, avec voilà, un rythme très, très soutenu, etc. Maintenant, pour le côté fantasy, moi, ça me saoule un peu. On n'arrête pas de dire ça depuis toujours. Final Fantasy VII, qui est l'épisode ultra culte pour tout le monde, il y avait beaucoup de modernité.
Six.
Oui,
pardon,
enfin,
excuse-moi.
Beaucoup, j'ai dit pour beaucoup, oui, beaucoup de monde. Voilà.
Ça commence aussi, il y avait un train aussi.
Voilà, non, mais Final Fantasy 7, c'était hyper moderne, quoi. Après, t'avais.
Le
côté fantasy des Final Fantasy vient après dans l'imagination qu'ils peuvent développer dans certains passages.
Mais Cloud, il avait quand même une grande épée, alors que là, l'héroïne, elle a un grand bazooka.
Ouais. Moi, ça me gêne pas plus que ça, les armes à feu. Après. Ouais, si c'est bien casé dans le gameplay, etc.
D'accord.
Et je te signale que Barrett, dans FF7, avait aussi un
bras,
superbe bras.
C'est vrai. Ouais. Bon, en tout cas, c'est clair que ça titille l'imagination et l'envie d'en savoir plus. Alors, attention, hein, on refroidit les choses clairement. Pour ceux qui n'auraient pas trop suivi l'actualité du mois de janvier, Square Enix a annoncé officiellement que le jeu sortirait bien fin 2009 au Japon. Très bien. Mais alors, en Occident, États-Unis et Europe, c'est au mieux avril 2010. Voilà, c'est-à-dire année fiscale suivante. Du coup, bah, on en a au minimum pour un an et demi encore d'attente quasiment. Hein.
C'est probablement dû à la version 360, le décalage en question. Hein. Plus que les trades, à mon avis, où ils commencent quand même un peu à avoir l'habitude de
localiser. Il y a une volonté de Square Enix de faire des sorties mondiales, etc. Certes, mais
c'est pas facile.
Voilà, avec les Final Fantasy, ils ne sont jamais arrivés. Quoi.
Le 12 a mis vachement de temps à débarquer en Europe. Hein.
Et à débarquer tout court, d'ailleurs.
Ouais.
Alors, bien sûr. Là, je pense que c'est clairement la version 360 qui leur est tombée sur les bras un peu à un moment où ils s'y attendaient pas forcément quelque part.
Et encore, on sait même pas où ils en sont. Ça se trouve, c'est le gros bordel là.
Mais je croyais que c'était même pas en même temps, en plus qu'ils avaient décidé de toute façon pour le sortir
Japon.
En... Ah oui, c'est au Japon.
Pour le Japon. Ouais.
D'accord. Okay.
Bon, à suivre, hein, mais espérons quand même que Final Fantasy XIII, au minimum en anglais, qu'on puisse comprendre quelque chose pour ceux qui n'ont pas la chance ou le talent de parler japonais, n'arrive pas en décembre 2010, parce que sinon ça commencerait à faire 2 ans quand même, ça ferait très 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 long. Voilà, maintenant on va aborder notre section sur les premières impressions, vous les attendez forcément, il y a du Street Fighter 4, du Killzone 2, du Mad World, du Batman, du Fear 2, du Battleforge. On va commencer, Julo, avec Street Fighter 4, le jeu sort là dans quelques jours à peine, hein, c'est en février que ça se passe,
ouais,
et c'est juste une tuerie, je crois.
Bah c'est vraiment génial quoi. En gros, ils ont réussi à mélanger, si tu veux, tout cet aspect moderne qu'on est en droit de réclamer dans un jeu de baston aujourd'hui, en lui donnant toute la magie qu'avait Street Fighter 2 à l'époque, parce que c'est officiellement la suite de Street Fighter 2 quoi. T'as tout le roster de persos de Street Fighter 2, t'as vraiment les mêmes sensations. Et puis c'est une baffe en termes de gameplay parce que tu t'éclates, et puis en termes graphiques aussi parce que le style, bon, je sais pas, on peut peut-être ne pas aimer, je sais pas si c'est une baffe technique, mais en tout cas au niveau design, moi j'adore. C'est vraiment, enfin, il y a tout un esprit qui se dégage de ce jeu et une espèce de perfection dans l'équilibre du gameplay, dans le plaisir que tu prends à y jouer à plusieurs, quoi, tout simplement.
J'aimerais me faire un peu l'avocat du diable, hein. J'ai beaucoup aimé aussi, mais beaucoup de personnes se disent justement, c'est le successeur de Street Fighter 2. On est tous nostalgiques de cet épisode-là. Le style est classieux.
Il en a gardé une certaine simplicité, en fait.
Voilà. Est-ce que quelqu'un qui découvrirait aujourd'hui la saga Street Fighter, il prendrait quand même vraiment son pied ?
Il n'y a pas de raison que ce qui fonctionnait à l'époque ne fonctionne pas aujourd'hui.
En gros, est-ce qu'il est vraiment à jour par rapport à un Soul Calibur, un Dead or Alive ?
C'est pas du tout la même expérience, c'est beaucoup plus speed. Et mine de rien, il ne faut pas croire non plus que parce qu'il est très accessible, il n'est pas technique. Hein. C'est pas vrai du tout.
Ouais.
Il est extrêmement technique. Il y a tout ça à cause d'un seul truc qui est les cancels. Bon, ils ont rajouté des EX aussi, c'est-à-dire que quand tu tapes, quand tu balances un coup spécial ou quand tu tapes avec 2 boutons au lieu d'un, ça renforce le coup que tu balances. Mais le plus important, c'est donc les cancels. Alors vous avez peut-être pu voir ça sur les vidéos, c'est quand un personnage utilise ça, il y a cette espèce d'effet à l'encre de Chine autour de lui,
comme il y avait eu dans la première vidéo de
exactement comme dans le teaser en image de synthèse. Alors ces coups là ça permet déjà de contrer n'importe quel autre coup quand ils sont bien timés. Et tu peux les utiliser soit comme des casse-gardes, c'est-à-dire que si toi ton coup passe, l'adversaire va être soufflé, tu vas lui couper le souffle pendant un certain temps, ça va te faire une ouverture pour des coups spéciaux, et tu peux aussi l'utiliser pour interrompre tes coups spéciaux. Par exemple, un Dragon Punch standard donc de Ryu ou de Ken, c'est un coup en bas, un coup en haut. Si tu balances ce coup-là en appuyant sur 2 boutons, hein, ça se fait juste après le premier impact du Dragon Punch, tu interromps le Dragon Punch, c'est-à-dire que tu vas pas faire l'envolée du Dragon Punch. Ça permet de faire tout simplement des feintes et de voir que si ton premier coup ne passe pas parce que l'autre s'est mis en parade, tu peux changer et faire autre chose. Et bref, cette simple mécanique qui se fait avec 2 boutons, je le rappelle, que tu appuies plus ou moins longtemps suivant ce que tu veux donner comme effet, elle ouvre toute une perspective de tactique qui va donner des matchs hallucinants chez les pros, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, pour résumer, en gros, ça fait partie de ces jeux qui ont ce talent-là d'être très facile à prendre en main et très long à maîtriser. Voilà, tout simplement. C'est un peu old school comme principe, mais c'est ça, quoi. Voilà.
Donc, a priori, un jeu techniquement abouti, une vraie profondeur de jeu. Clairement, pour l'instant, ça fait l'unanimité de la rédaction de Gameblog. Hein.
Et c'est pas un gameplay 2D de base, tu vois, qui reprend ce qui marchait à l'époque avec un habillage réactualisé et ce petit plus justement qui est de gameplay qui fait qu'on n'oublie pas non plus ceux qui veulent vraiment un jeu hardcore, quoi.
Juste une toute petite note, parce qu'on avait très très peur de la jouabilité en fait avec la manette Xbox 360, parce que c'est la version qu'on a eue. Et il se trouve que j'ai franchi le pas, quoi. Je joue avec la
croix.
Non, pas avec la croix.
Avec le stick.
Avec le stick. Et juste, on m'avait dit ça. On m'a dit, essaye le stick, tu verras. J'ai dit, tu fous ma gueule ou quoi. Et d'ailleurs, c'est toi, Kaf, qui me l'avait dit, non ?
Ouais, exactement.
Et j'ai essayé. Et putain, mais juste, ça marche super bien. Et vachement mieux qu'avec cette croix de
merde. Mais c'est ce que je t'avais dit, c'était sur le Super Street. Parce que moi, j'étais sur le Super Street Fighter 2 HD Remix, gna. Et j'avais déjà essayé, parce que j'en avais ras-le-bol de ne pas réussir à sortir une pauvre boule de feu. Et en fait, ça fonctionne pas
avec
mal du
stick,
tout.
Ça marche.
Il faut un petit temps d'adaptation et après, on fait des vrais trucs, quoi.
Et alors, à noter quand même que le jeu va évidemment sortir avec toute une gamme d'accessoires officiels et notamment le
stick arcade.
Le gros bon stick arcade. Et que ça, vraiment, il n'y a rien de mieux, évidemment. pour jouer à ça.
Ouais,
pour
concurrent. Je voulais juste rebondir effectivement sur le truc de l'analogique. C'est vraiment, c'est tout con, mais c'était vachement important de le préciser parce qu'ils ont fait un boulot, mais de ouf. Mmh. Et sur Street 4, c'est hallucinant comme tu prends le pas au bout de 3-4 matchs, tu te rends compte que vraiment, vraiment, ça marche bien, quoi. Et c'est la première fois qu'on voit ça, quoi.
Bon, chouette. En tout cas, de très très bonnes premières impressions sur Street Fighter 4. On attend de vous en reparler la prochaine fois. Bah, ce sera le test et c'est dans pas si longtemps que ça. Raon, tu gardes le micro puisque maintenant il y a un autre jeu. Il arrive le 25 février prochain. C'est une exclusivité PlayStation 3. Il est attendu depuis des années et des années. Il était censé nous apporter une baffe graphique incroyable. Killzone 2, on en est où ?
Alors moi, j'en suis pas encore à la fin, donc ça sera vraiment des impressions. Mais en tous les cas, c'est clair que déjà, du point de vue technique et graphique, ça tabasse. Voilà. Faut être clair, c'est très gris, c'est très brun, c'est très crade comme rendu, mais putain, c'est juste super beau, quoi. Mmh. Voilà, donc effectivement, ils ont fait un boulot hallucinant, y compris sur les animations, parce qu'il n'y a pas que le graphisme dans la vie. Et ça bouge super, super, super bien.
La première fois qu'on l'avait vu au PlayStation Day, t'avais été super énervé par la petite fumée qui sortait du canon.
Ils ont corrigé.
Ils ont corrigé ?
Ouais, d'accord. Ouais, ils ont corrigé. Parce que, oui, bon, pour expliquer, donc au départ, on y avait joué il y a. Je sais pas, ça fait un bail maintenant. Donc,
ça fait un. Ouais, peut-être.
Une petite année, mois, là.
Ouais, non, une petite année. Et il y avait un truc. Alors, c'était très bien, ils avaient foutu un effet de fumée au fond du canon, au bout du canon quand tu tirais, sauf que du coup, tu voyais plus où est-ce que tu tirais, quoi. Donc,
enfin, tu tirais une fois et après, tu voyais plus.
Voilà. Est-ce qu'au niveau du rythme, on a eu, là, quand même, sur ces derniers mois, il y a eu un Gears of War 2 qui était quand même assez fort. L'année dernière, il y a eu un Call of Duty 4 qui a explosé les barrières du FPS.
C'est la référence toujours.
Voilà, clairement. Est-ce qu'aujourd'hui, Killzone 2 a réussi à trouver sa place parmi ces grands titres ?
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que je vais prendre plutôt qu'un Gears 2, ou j'ai plutôt parlé de Call of Duty 4, puisque tu me parles de rythme, et qu'en la matière, je crois que, enfin, en tous les cas, de mon point de vue, oui, c'est ce qui s'est fait de mieux ces dernières années.
C'est une efficacité redoutable.
Pour l'instant, je trouve pas Killzone 2 ait un rythme aussi maîtrisé, mais parce que c'est vachement plus intense en fait. Killzone 2, ça n'arrête quasiment jamais. Il y a beaucoup de scènes d'action sans arrêt. Et ce qu'il faut voir, c'est que t'as vraiment un feeling de guerre beaucoup plus présent finalement, qui ressemble entre guillemets à ceux des niveaux de Call of Duty 4 qui sont au Moyen-Orient. Mm-hmm. Un peu Black Hawk Down et tout, mais sauf que là, tu te retrouves face à des mecs beaucoup plus flippants, qui sont les Hellghast, les mecs avec les yeux rouges qui sont habillés comme dans Jinro. Et c'est un FPS assez difficile, Killzone 2. Alors que Call of Duty 4, c'est facile, t'as une assistance à la visée, etc. C'était des choses que t'as pas dans Killzone 2. Et dans Killzone 2, il y a un truc qui fait toute la différence, c'est que le rythme, en fait, c'est toi qui vas le faire, puisque c'est toi qui vas te mettre à couverture. Il y a un système de couverture à la pression du bouton L2, la deuxième gâchette à gauche. Qui permet de se plaquer contre un mur ou derrière un parapet, un peu importe, mais bref, donc de se couvrir. Si tu ne te couvres pas tout le temps, tu ne fais pas de pas. C'est juste super balèze. Voilà. Il faut vraiment, vraiment jouer avec la couverture à fond, un peu comme dans un Gears, si tu veux, sauf que comme là, tu es en FPS, tu vois, tu n'as pas le même champ de vision autour de toi. Et donc, du coup, si tu ne fais pas très attention à ce qui se passe, parce que les ennemis seront loin d'être cons, et ils font des contournements, ils bossent en team, etc. Ils font des trucs de couverture pour t'empêcher, justement, pour essayer de te clouer là où t'es. Donc, la progression dans Killzone 2 est beaucoup plus difficile. Et c'est pas du tout la même approche, quoi. Voilà. Donc, c'est un FPS qui est presque plus hardcore que les autres, quoi.
D'accord, ça c'est assez surprenant. Dans Gears of War 2, par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est que bien sûr c'est frénétique comme action, mais il y a des moments où on avance un peu tranquillement et du coup bah on respire, on s'immerge et il y a donc une ambiance. Là, tu me dis que c'est constant.
Pour le moment, hein, évidemment, c'est quasiment constant. Il y a des respirations, il y a des moments où tu passes dans des couloirs avec un pote avec toi de ton squad, mais c'est des respirations extrêmement courtes. C'est-à-dire que t'as à peine le temps de commencer à respirer. Que déjà on te relance dedans, c'est-à-dire que tu envahis la planète Elgan, t'arrives sur place en disant que tu vas te botter le cul des autres, et en fait t'en prends plein la gueule, du début jusqu'à là où j'en suis. Voilà.
Et est-ce que c'est varié, parce que ça c'est aussi la petite crainte que pas mal de joueurs avaient évoqué sur des environnements un petit peu toujours un peu industriels. Est-ce qu'on a une variété de lieux satisfaisante?
Y a pas, pour le moment, en tous les cas, il y a pas de forêt bucolique et de rivière machin. Non, ça,
tu sais me parler.
Je suis désolé, mais non, ça reste de la tôle, etc. Par contre, il y a des ouvertures aussi sur la planète avec des scènes où tu vas voir un désert ocre balayé par des vents violents, et c'est pas du tout la même chose que quand t'es dans un bidonville de Hellghast avec des toutes petites allées et des trucs qui tiennent avec deux tôles et des écrous. Quoi.
C'est découpé par niveau ou c'est un espèce de grand.
C'est découpé par chapitre. Il y a des cinématiques aussi et qui sont vraiment bien. Hein. Pas toutes comme l'intro que vous avez pu voir qui, elle, est en image de synthèse. C'est si que ce des cinématiques.
Si ce n'est pas fait, on vous invite vraiment, vous tapez cinématique Killzone 2 sur Gameblog et elle déboîte. Hein.
Donc il y a des cinématiques avec le moteur du jeu qui coupent les chapitres, etc. Après c'est organisé comme un FPS classique. Il y a des chargements d'un chapitre à un autre.
D'accord. Voilà. Bon, est-ce que j'avais vu aussi qu'il y avait quelques véhicules.
Ouais, enfin peut-être pas trop spoiler non plus.
Non, tu veux pas en parler très rapidement.
Non, pas trop. Bon. Non, on verra.
Mais bah, a priori ça va apporter un. Il y a le mode multi aussi, un petit souffle sympa au jeu. Quoi.
Il y a le mode multi qui a été très bossé aussi et qu'il faudrait pas non plus négliger. Mais bon, j'ai pas assez joué pour savoir vraiment.
Oui,
il
n'y a pas de coop.
Non, il n'y a pas de coop.
Ça, c'est un peu dommage quand même.
Faute.
C'est un peu dommage, mais c'est le prix à payer pour avoir un truc qui tabasse la gueule graphiquement à ce point-là.
D'accord. Bon, et bien en tout cas.
On va voir deux.
Oui, c'est vrai.
En plus, tu fais tout le jeu avec des partenaires, quoi. Donc,
Oui, mais enfin, ils sont gérés par l'IA. Ouais. C'est pas du tout la même chose.
Carton jaune.
Bon, en tout cas, quand même, vous l'aurez compris en écoutant Rahan, hein, notre premier sentiment sur Killzone 2 est quand même plutôt positif.
Ouais.
Peut-être pas, ça révolutionnera peut-être pas le genre en termes de fond, mais techniquement, déjà sur la PS3, c'est une bien belle étape de franchie et il y a l'air d'avoir une belle ambiance.
Ah oui, l'ambiance est géniale. Il faut aimer ce type d'ambiance, mais l'ambiance est géniale. Ouais, c'est vraiment très, très, très sombre et ceux qui aiment ça vont kiffer grave.
Ok, on enchaîne avec un autre style de jeu, mais ça reste du FPS. On va passer assez rapidement sur Fear 2. Le premier avait connu un joli succès, puis il y avait lui aussi une atmosphère macabre et assez...
Anxiogène,
tout à fait. Et avait marqué un peu les esprits quand même. Est-ce que son successeur va être du même tonneau?
C'est bien parti, il est parti pour être meilleur. Moi, j'ai joué sur PC comme plein de gens, vu que la démo est sortie sur à peu près toutes les plateformes la semaine dernière. Enfin, allez... Oui, si c'est la semaine dernière, c'est ça. C'est plutôt une bonne surprise. Ça a l'air bien codé. Donc déjà, ça c'est le premier n'était pas réputé pour être fantastiquement fluide, surtout sur PC. Là, ils ont fait un travail de mise en scène qui est vraiment bien foutu, qui est bien supérieur au premier. Et apparemment, donc c'est comme ça pendant tout le jeu. Donc pendant la démo, on va s'apercevoir que le flic qu'on incarne en fait a une espèce de casque qui sert de HUD avec des informations. Mais ça veut dire que quand il y a de la pluie, ça va se mettre dessus du sang aussi, plein, des éclaboussures par litre. l'ambiance a été travaillée comme le 1. Alors après. J'ai peur qu'il y ait des séquences, on parlait de respiration dans Killzone, j'ai l'impression que là il y a vraiment des couloirs qui sont là pour faire peur, mais t'arrives dans le couloir et tu sais le couloir, genre ah là je vais avoir peur. Donc c'est super bien fait, hein. T'as des flashs de lumière, t'as des flashbacks, donc tu te retrouves dans des endroits comme dans certains films d'horreur où t'as des visions en fait. C'est super flippant, l'ambiance sonore elle est hyper bien travaillée. Je pense très sincèrement qu'il y a des gens qui ne pourront pas y jouer, mais vraiment, parce qu'il est vraiment super flippant. Tu tournes un couloir et t'as la petite gamine qui est donc...
Voilà, c'est là où je voulais en venir. Le premier, il avait fait beaucoup parler de lui avec cette petite nana, avec sa robe rouge
et
ses cheveux longs. Elle est toujours là.
Elle est encore plus flippante, c'est-à-dire que tu fais un pas et tac, t'as cette espèce de flash et elle est à 2 mètres de toi. Donc là, généralement, moi, je me suis retrouvé à flinguer, tu vois, avec le doigt crispé sur la souris. Et genre, je meurs. Une vision, tout va bien.
Non, mais j'ai vécu ça aussi. Pareil, il y a une petite fille, c'était le passage le plus flippant de toute ma vie de gamer. C'est un passage de Project Zero.
Ah oui.
Qui est dans le même jeu.
Avec la porte qui s'ouvre quand on ouvre la porte.
En gros, t'es dans une pièce, machin, tu sais plus trop, il y avait quelqu'un, il y a plus personne. Et puis d'un seul coup, tu regardes, tu baisses la tête et il y a la nana qui est là, juste, tu vois, limite entre tes jambes, quoi. Avec sa tronche, pas possible et tout.
Les meufs sont flippantes.
Je me rappelle avoir éteint la console.
Carrément.
Ouais, je te jure.
Parce que tu avais peur qu'elle sorte de l'écran.
J'avais pas sauvegardé, je me suis rendu compte après, j'ai dit putain, mais quel con. Mais j'ai tellement flippé, je te jure, je me suis dit, ok, j'en ai marre.
Fear 2, en fait, t'as vraiment ce petit côté. C'est assez rare dans un FPS parce que normalement, c'est surtout des ambiances limite un peu abrutissantes, tu vois. Alors que là, ça va vraiment être ça. Et bon, on va retrouver après, je pense, tous les bons trucs du jeu du premier, c'est-à-dire des ennemis qui sont vraiment pas cons, qui font le tour, qui bossent en équipe et des armes qui ont un excellent feeling. La grosse nouveauté, c'est les armures, en fait. Tu es un peu comme dans Alien 2, oui, je crois, où elle se bat avec un exosquelette, etc. à la fin.
Oui, c'est
voilà. C'est un peu le même
genre. Le moins bon.
Avec des. Oui, bah voilà. Et avec des lance-roquettes au bout cette fois. Mais
alors que dans Project Zero, t'as juste un appareil photo.
Non, non, là t'as du gros gun. Je pense que ça va être assez sympa. Et le multi, bah, il devrait être pas mal aussi. Le multi de Fears 1 était très très bien, mm-hmm. et il a été complètement zappé parce que la concurrence elle est sans pitié sur ce domaine. Donc bon, bah voilà, je pense que le produit est prometteur.
Toujours les petits effets de bullet time, ralentissement de temps. Ils ont trouvé de nouvelles petites idées aussi ou
bon, non, tu restes sur les grands classiques. Donc le coup du bullet time. Et ces espèces de flashbacks, à mon avis, qui vont être amenés dans le gameplay. Ils ont réussi à pas spoiler en fait vraiment dans la démo. Mm-hmm. Et là, on attend vraiment les versions bêta, donc on verra.
D'accord. Donc pour résumer, Fear 2, c'est bien abouti techniquement. C'est au niveau de l'ambiance, c'est toujours aussi flippant. C'est un jeu à suivre, donc.
Ouais, carrément.
Ok, Raon, je me tourne de nouveau vers toi pour parler d'un jeu. Lui aussi, une fois de plus, c'est vraiment la tendance en ce début d'année. Hein. Complètement glauque, mais lui, il joue la couleur, les trois couleurs, hein, du noir, du blanc, du rouge, et exclusivement, il s'agit de Mad World, et c'est le premier jeu plus 18 de la Wii. Enfin, pas forcément le premier,
alors,
mais
je savais pas de quoi tu parlais, parce que tu me dis flippant, mais alors, en fait, pas du tout, quoi.
Oh bah, flippant pour Famille de France et toutes ces familles qui ont peur de cette dépendance du jeu vidéo.
Ah ouais.
Mais on les rassure, ce n'est pas fait pour vos enfants, parce que c'est
du tout le même
plus 18.
Type. C'est plus 18, déjà, oui, ça, de base, et puis alors, c'est complètement parodique. Hein. C'est vraiment fait exprès pour être débile, vu comment c'est violent, c'est complètement surréaliste, quoi.
Ouais. Mais alors, est-ce que justement ça l'est vraiment? Est-ce que
ce
qu'on voyait en trailer, c'était et est-ce que cette débilité de la violence et de la surenchère dans la violence, bah au bout de 20 minutes, on en fait le tour ou non, on accroche? Est-ce qu'il y a un propos?
Ouais, je pense que le propos, c'est surtout de s'amuser et de prendre la violence du jeu vidéo lui-même en dérision, quoi, parce que.
Non, parce que vous ne comprenez pas, vous ne le voyez pas, mais Ran a un problème avec sa manche qui le gêne pour tenir son micro. Donc s'il y a des petites respirations, vous inquiétez pas.
Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui.
Le jeu prend en dérision la violence du jeu vidéo.
Oui, oui, et c'est-à-dire qu'ils n'en ratent pas une pour souvent dans un jeu, c'est arrivé à tout le monde. Dans un jeu, un beat'em all, un jeu un peu d'action, un peu violent, machin. Putain, j'aurais bien aimé pouvoir faire ça, quoi. J'aurais bien aimé pouvoir faire ça. Bah, dans Mad World, tu peux le faire, quoi. C'est ça le truc.
Et qu'est-ce que tu peux faire?
Bah, pareil, enfin, tu peux faire des tonnes de trucs. Tu peux empiler les mecs. En fait, tu fais des combos, des combos de violence, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, tu dois accumuler un certain nombre de points dans chacun des quartiers que tu vas traverser de cette espèce de ville. Parce que je rappelle que ça, c'est une parodie de jeu télévisé à la Running Man où tu dois progresser et survivre, où tous ceux qui sont dans cette arène se tabassent la gueule. Et donc, pour marquer des points afin de débloquer les quartiers et les challenges, tu dois faire des combos. Par exemple, planter un premier panneau de signalisation dans la tête d'un mec. ça va te rapporter X points. Si t'en plantes un deuxième, ça va te rapporter encore X points. Le temps que le gars il claque pas tout de suite, il est encore un peu, tu vois, sur la liste. Donc il a deux panneaux dans la tête. tu lui colles un bidon sur la tête. Après, oui. Tu l'enserres comme ça et tu le prends l'ensemble et tu le balances sur un mur où il y a des pics. Voilà.
C'est donc, on le rappelle.
Là, t'as fait une combo plutôt sympa, tu vois, avec 4 trucs.
C'est, on le rappelle, un jeu, oui.
Oui, oui, c'est un jeu, oui.
Et il y a aussi des broyeurs et tout ça.
Évidemment, t'as jamais vu une ville avec autant d'hélices, hein. Ça, c'est certain. Il y a des bennes à ordures avec des pieux. Quand
partout.
Tu la soulèves, il y a des pieux dedans. Des crochets de bûcher partout. Il y a même des bus avec des crochets dessus qui passent dans la ville, comme ça. T'as le bus qui fait des tours.
Distributeur de bûches.
C'est de pouvoir coller le maximum de mecs sur le bus à chaque passage qu'il fait, histoire de compléter complètement toutes les facettes du bus. Et bref.
Oui, donc c'est vraiment n'importe quoi.
Ah, c'est complètement n'importe quoi. Donc après, t'as les challenges. Quand tu fais un certain nombre de points, tu vas débloquer des défis qui sont introduits par un pimp, un black pimp, tu vois, avec le grand manteau, la canne, etc., qui va à chaque fois se faire latter la gueule par une nana qui ne sort pas un seul mot. T'as les fléchettes humaines, par exemple. Alors, t'as une batte de baseball dans la main, parce que tu débloques des armes aussi en mettant. Plus tu marques de points, plus tu débloques des armes. Mmh. Donc, avec la batte de baseball, tu vas devoir envoyer valdinguer les mecs et en faire des fléchettes humaines sur une cible gigantesque. Bref, c'est que des trucs complètement surréalistes et débiles, avec une esthétique évidemment qui est non seulement un choix graphique mais aussi technologique, parce que le fait d'avoir du noir et blanc et rouge pour le sang, il y a un petit peu de jaune aussi pour certaines indications.
Est-ce qu'au niveau de la visibilité, etc., du rapport de cohérence à l'image,
la visibilité est extraordinairement bonne pour un parti pris graphique comme celui-ci. Vraiment, tu vois bien où est-ce que t'es, tu vois bien où est-ce que tu vas, tu vois bien ce que tu fais, tu vois bien les mecs, tout est vraiment très clair. Après, en interface de jeu, c'est aussi très classique, c'est-à-dire que tu avances avec le stick du Nunchuk. quand tu donnes une petite secousse avec le nunchuk, tu fais une esquive vers l'arrière, donc un truc, une espèce d'acrobatie, une espèce de salto arrière. Et alors pour le reste, tu tapes en appuyant sur A, quoi, en gros.
Donc finalement, l'utilisation justement combo Wiimote.
Elle vient pour
nunchuk.
Les fatalités.
Ah,
surtout.
Explique-nous un peu.
Bah alors, tu. Quand tu commences à tabasser un mec, au bout d'un moment, il devient un peu, tu vois, stone. et donc forcément, il apparaît une icône sur l'écran qui dit que tu peux en faire une fatalité.
Au cas où il serait pas mort.
C'est ça. Enfin, il est pas encore mort justement. Là, tu l'as juste cogné, tu l'as cogné.
Il est déjà mort, mais je ne le sais pas encore.
Voilà, c'est ça.
Exact.
Et donc, tu déclenches une fatalité en appuyant sur un bouton. Et à ce moment-là, tu peux avoir soit une torsion du cou, donc tu vas écarter le nunchuk et la Wiimote, soit le tronçonner de bas en haut avec ta, parce que t'as une tronçonneuse à la place du bras droit. Donc tu vas lever ta Wiimote, etc. Bref, le truc que tout le monde peut s'imaginer, c'est-à-dire que le mouvement de la Wiimote va suivre la fatalité que tu vas faire à l'écran, quoi. Voilà. Dans le reste, pour le reste, c'est assez classique. La caméra est un petit peu chiante.
Ouais.
C'est-à-dire que il faut appuyer sur un bouton pour la recentrer. Et c'est un petit peu old school de ce point de vue-là. Mais pour l'instant, au vu de ce que moi j'en ai joué, ça m'a pas trop gêné, quoi.
Bon, on rappelle en tout cas que c'est le premier jeu de Platinum Games, les anciens de Clover Studio, de Capcom.
Ce sera le premier à sortir,
ouais. Voilà, donc c'était généralement des développeurs japonais.
Bah pour ceux qui ont joué à God End, voilà, ils savent à peu près aussi à quoi s'attendre, quoi.
Exactement, qui aime l'action et qui aime l'originalité aussi et qui généralement ont l'habitude de se lâcher complètement.
Ouais.
Donc une fois de plus, des premières bonnes impressions plutôt positives quand même.
Ouais, ouais.
Bon, dans un jeu très particulier.
On verra dans la longueur s'il y a suffisamment justement de renouvellement parce qu'il y a beaucoup d'idées sur ce que j'ai joué, mais après il faut qu'il y en ait de plus en plus. Les boss ont l'air vraiment vraiment rigolos aussi. Et on verra dans la longueur si effectivement ils introduisent des armes intéressantes ou des choses intéressantes à faire, quoi.
D'accord. En tout cas, ça... Beaucoup de jeux de ce début d'année quand même qui ont l'air plutôt sympathiques. On enchaîne justement avec un autre qui lui aussi se présente sous les meilleurs augures. Il s'agit de Batman Arkham Asylum. Ah. Là franchement, la chauve-souris qui avait généralement du mal à s'imposer sur console. Il y a eu certes un épisode sur Game Boy, puisque j'ai vu, et en plus je l'avais, qui était pas si mal que ça, mais enfin bon, ça restait un petit jeu. C'est l'épisode sur NES, pas si mal, mais enfin bon, un épisode sur Super Nintendo de Konami qui était pas mal. Mais enfin, généralement, c'est quand même des adaptations.
Sur PS2, je crois que c'était Ubi. Je m'en souviens parce que je l'avais testé. Le jeu, il était passé complètement inaperçu. Il était pas mal.
Le Batman et le Robin ?
Non, pas du tout. Non, mais il était juste pas mal. Je crois que j'ai collé 6.
Et celui-là, il se présente plutôt pas mal.
Bah ouais. Voilà, alors justement, ce sera a priori plus que pas mal, même si Kaf voulait dire quelque chose avec amour et passion.
Non, je voulais vous parler d'épisode Amiga qui était fantastique. Parce qu'on pouvait s'accrocher avec le grappin pour faire les virages en voiture.
Ah oui, c'est vrai.
Et voilà,
ça
c'était mortel.
Aussi, c'était génial.
C'est tout.
Bon. Et si je me souviens bien, on avait eu un autre aussi.
Ça y est, on a tout le
temps. Trop de souvenirs. Sur CPC, c'était en 3D ISO à la Head Over Hill.
À la quoi ?
Bon, enfin, bref.
À la Head.
Non, mais c'est
tout. Tout ça pour dire que bon, néanmoins, Batman a eu pas connu une destinée formidable. On sera quand même d'accord là-dessus.
Enfin, ça fait un bail.
Sur console,
cas.
Voilà, exactement. Et que ce Batman Arkham Asylum se présente pas mal. Il est prévu sur PC, sur Xbox 360 et sur PlayStation 3. Déjà graphiquement, il est plutôt très réussi.
Unreal
hein.
Engine, hein, donc, mais
très
bien,
consistant.
Bien
les personnages bien modélisés, les décors riches, variés, une belle ambiance, une belle atmosphère. Le jeu d'acteur, alors nous on a pu le découvrir en VO hein, avec un Joker incarné par Mark Hamill, puisqu'en fait les voix sont reprises de la série animée.
Ah bah oui, mais
il est vraiment beau et il est flippant. Et le Joker est super flippant avec de belles écritures en plus, c'est bien écrit,
une
balance de bonnes vannes.
Ça va relancer sa carrière, c'est sûr.
J'en sais rien, mais en tout cas là, il est bon. Il est pertinent dans ce rôle-là. On rappelle, hein, c'est une série qui n'est donc pas du tout une adaptation là, du film Dark Knight. Ce n'est pas non plus une adaptation directement des comics, mais c'est une frange des DC Comics avec un style très particulier de dessin, Batman...
C'est beaucoup plus proche des comics originaux que des films, ça c'est clair et net.
Voilà.
Donc ça a l'air des mecs vachement
baraqués,
un Joker avec les cheveux bien verts...
Voilà. Hirsute, rigolard, mais qui fait flipper. Hein. Avec le retour de pas mal de héros emblématiques de la série. Et surtout, eh bien, un jeu qui mélange, alterne entre action pure et dure, assez rapide, assez nerveuse, pas très complexe d'un autre côté. Hein. D'une touche, on passe d'un personnage à l'autre.
Il est bien le système de combat.
Ouais.
Ça speed, ça la patate, et c'est du un coup de poing, un mec par terre. Quoi.
Exactement, avec un effet multiplicateur. Dès qu'on enchaîne, bah, ça monte. Les actions, les combos sont plus dévastateurs. C'est du classique, hein, mais c'est plutôt bien réalisé. Et puis surtout, la deuxième partie intéressante, c'est que le gameplay, au fur et à mesure, s'ouvre vers plus d'infiltration, plus de bah, au lieu d'être la proie, puisqu'en fait, pour résumer, Batman descend pour amener le Joker donc, dans l'asile, et puis finalement, bien évidemment, le Joker va se libérer, et puis là, c'est la débandade, il ouvre toutes les grilles, et puis là, bah, tous les crazy b-boys de l'asile se ruent sur Batman. Et bien, dans les sections un peu plus détectives, là, on se faufile dans l'ombre, on peut carrément, normalement, pouvoir voir à travers les yeux de ses proies, donc de ses adversaires, sentir l'angoisse, sentir le battement de cœur. Ouais.
Ouais. Ce qui est génial, c'est quand t'arrives dans une pièce, il y a trois types qui font des rondes, etc., et que t'en as pas pris un seul, ils savent pas que t'es là, t'es planqué, t'en zappes un, et tu vas immédiatement te réfugier ailleurs sur une autre gargouille quelque part pendue dans l'ombre, et les deux autres types vont voir le mec en question, leur rythme cardiaque va s'accélérer, ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui va pas, et à ce moment-là, toi, tu te retrouves dans la peau du chasseur vraiment.
Et surtout qu'en plus, au fur et à mesure, on débloque de l'expérience qui permet d'avoir de nouvelles capacités, de nouvelles habiletés, d'armure, etc. Voilà. Dont une que nous, on a pu voir qui était plutôt bien vue, où justement, on s'accrochait sur une gargouille la tête en bas, on descendait, on happait. Mais vraiment, c'était classe, c'était bien, bien produit le personnage. On l'aspire en hauteur, on le tabasse, on l'accroche avec une corde, on se casse et il pendouille comme ça, tel un sauciflard.
Et après, tu peux balancer un batarang
pour le découper la corde, etc. Enfin bon, en gros, il y a moyen qu'il y ait un joli terrain de jeu et plusieurs manières d'appréhender un petit peu les situations. On rappelle aussi que cet asile, les différents lieux seront complètement ouverts, une sorte de grand hub dans lequel on pourra se déplacer, revenir en arrière. Voilà, ça fonctionnera pas vraiment en niveau, donc ça c'est pas mal, puisqu'il y aura pas mal d'éléments qu'on pourra pas, dans lesquels on pourra pas voir ou accéder et qu'on découvrira au fur et à mesure avec justement des nouvelles capacités. Donc franchement,
donc
en tout cas,
une construction un peu à la Zelda, quoi, en fait. Hein,
oui, finalement. Zelda un peu plus glauquinard.
Ouais, ils n'ont pas joué la carte de la facilité à nous faire juste un jeu d'action, quoi. C'est ça qui est bien.
Ouais.
Qu'est-ce qui développe, c'est Green, non ?
Non,
du tout. C'est Rocksteady.
Exactement, Rocksteady qui n'avait pas fait grand chose jusqu'à présent, mais qui en tout cas sur ce jeu.
Prennent leur temps en plus. Aussi. Ouais. Bah voilà, justement, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit peu des micmacs de licence, etc., qui fait qu'ils ont plus de temps maintenant pour le faire, parce qu'au départ, il devait y avoir un jeu adapté du film Dark Knight, qui finalement n'a pas vu le jour, etc. Donc ils ont repoussé aussi eux leur sortie par rapport aux droits, par rapport à DC. Donc là, ils ont eu beaucoup, beaucoup de temps pour peaufiner, rajouter tout ce qu'ils voulaient, etc. Donc et ça se sent, quoi.
Ça se sent, ça fait plaisir. Un jeu qu'on suivra en tout cas, qui est pour l'instant prévu pour l'année 2009. Sans plus de précision, mais ça devrait pas être fin année 2009, mais plutôt vers le milieu, on va dire. CAF, on conclut ses premières impressions avec Battleforge, un titre qui t'a plutôt convaincu sur.
Bah, qui m'a surpris surtout parce qu'il est fait par Phenomic qui avait fait Spellforce, que j'avais pas du tout aimé. Alors que bon, le titre était bien produit, mais j'avais pas trouvé le gameplay vraiment bien trouvé. Là, c'est un mélange de STR. Hyper classique, hein, avec en même temps un mélange de jeux de cartes à la Magic, l'assemblée. Donc toutes les unités qu'on va pouvoir poser en fait sur le terrain de jeu du STR viennent des cartes, donc du deck qu'on s'est fabriqué. Donc évidemment, il y a tout un d'expliquer dans la preview qui est sur Gameblog, d'expliquer le seul crainte que j'ai, c'est qu'effectivement ça va être le business model du jeu, c'est qu'il va falloir acheter les cartes. Que pour acheter les cartes, eh ben, il va falloir dépenser de l'argent. À partir de là, ça peut créer des déséquilibres, mais ce que je n'ai pas écrit dans la preview, c'est qu'effectivement, ils ont déjà prévu pour la sortie du jeu des modes de PVP où tout le monde a les mêmes cartes, etc., pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Maintenant, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que le jeu lui-même est hyper, hyper bien foutu. C'est super beau, le moteur 3D, il déchire, les unités sont hyper bien pensées, et les combats sont super intéressants parce que toutes les cartes sont scriptées, en fait. Donc, il va se passer des trucs, c'est pas des cartes avec un mec à droite, un mec à gauche, il faut se bastonner, c'est des cartes avec dans 5 minutes, il faut avoir sauvé tant de civils parce que sinon, bah, c'est la fin de la carte. Une fois que t'as sauvé tant de civils, bah, tu continues, il faut aller buter ce mec-là ou protéger un autre mec. Et en fait, toutes les cartes sont scénarisées, c'est timé. Et quasiment la moitié ou les deux tiers des cartes du jeu, il faut les faire en PVE, mais à plusieurs, c'est-à-dire en coopératif.
Tu parles des cartes...
Oui, pardon, parce que je parle des cartes et des cartes.
Parce que tout à l'heure, je commençais à... Oui, les maps, les cartes de jeu, quoi, les niveaux. Quoi.
Voilà, exactement, pardon. Il y a deux types de cartes, ça va être la merde. Moi, c'est tout bêtement, j'en attendais vraiment rien de ce titre, il faut le dire. Et la présentation, j'ai trouvé ça...
vraiment intéressant. Les mecs avaient une vraie vision du produit qu'ils allaient faire. Ça fait 3 ans qu'ils sont dessus, donc c'est pas rien. Et là, les mecs ont complètement conscience d'être sur un produit qui va sortir avec assez Electronic Arts qui s'occupe de l'édition. C'est des Allemands qui s'en occupent, qui sortent le jeu. Ça sort fin mars. Le marketing, faut pas se mentir, pour l'instant, il est un peu pourri. Il y a pas eu de com dessus. Il y en aura très peu. Ça va être de la com online, un peu de viral, peut-être. Et voilà. En tout cas, je sais pas s'il y a grand chose de prévu. J'espère qu'ils vont faire quand même un bon coup pour le lancement. Et après, ça va être un long seller. C'est un jeu qui va se vendre pendant des années, qui aura ses fans.
Les cartes, tu peux les échanger. Il y a un aspect échange de cartes.
Ah oui, alors oui, j'en ai un peu parlé, mais j'en reparlerai dans le test. Tout est basé sur l'échange. Donc, tu as une auction house. Tu peux convoquer, entre guillemets, un mec pour avoir une interface pour échanger les cartes. Et tu as un système donc, de BF points, les Battle Forge points, qui est la monnaie pour acheter les cartes, en fait. Et donc, tu peux soit l'échanger contre une ou plusieurs cartes. Contre une super carte que toi tu as, il y a le système des cartes rares, ultra rares, etc. Mmh. Et sinon tu peux acheter des booster packs, etc. Donc tout est fait. D'accord. Pour faciliter.
Et dans leur business model, tu crois qu'ils vont nous demander des micro-tunes réelles pour avoir des Battle Forge points?
C'est sûr.
Mais tu peux en gagner par le jeu aussi.
Tu peux en gagner très peu. C'est vraiment par l'échange. Sinon, d'accord, pour le booster, tout ce qui est booster, tout ce qui est cartes supplémentaires, ça va passer par de l'achat. Évidemment, quand tu achètes le jeu, t'as un set. Mmh. T'as un pack de points, mais après il va falloir mettre la main au portefeuille. C'est le seul truc qui peut faire un peu flipper. Voilà.
Ouais. Mais néanmoins, en tout cas, ça a été une belle surprise. Et je le rappelle, pour quasiment l'intégralité de ces premières impressions là qu'on vous a données oralement dans ce podcast 86, vous pouvez le retrouver sur gameblog.fr si vous voulez un petit peu complément d'information. On n'a pas dit exactement la même chose et on redira d'autres choses encore dans les tests à venir de tous ces jeux. Allez, juste avant de conclure ce podcast sur le bilan du mois de janvier 2009, qui finalement, on s'en rend compte, est assez riche. Hein. Au jour le jour, il n'y a pas eu d'informations tonitruantes, mais il y a en tout cas prévisualisation de bien de belles choses. Néanmoins, quelques infos qui ont retenu notre attention, avec à commencer par le nouveau brevet que Nintendo aurait déposé, qui permettrait d'avoir, Julo, un Zelda un peu plus orienté, en tout cas pour les accessibles, pour les casual gamers. De quoi s'agit-il vraiment ?
Alors, d'abord, on parle de ce brevet, mais en parlant d'un nouveau Zelda, mais c'est simplement, tout simplement pour le nom du brevet, qui était Legend of O-O. Donc, on a rapproché ça à Zelda, mais en gros, le principe, c'est de pouvoir offrir aux joueurs, et donc notamment aux casual, ou en tout cas à ceux qui ont des difficultés lorsqu'ils jouent à se sortir d'une situation, etc., une soluce en fait interactive par le biais de vidéos qui permettraient de débloquer en fait les mecs qui ont des problèmes. Il y a ça. Il y a également
des options de chapitrage, je crois.
Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est marrant parce que il dépose le brevet certes, mais on a déjà vu ça dans un jeu qui est pas
français,
terrible, voilà, mais qui est français, monsieur. Donc le dernier Alone in the Dark, où tu peux effectivement chapitrer le jeu, passer d'un chapitre à l'autre quand tu trouves ça trop dur, etc. Et ça, c'est donc la deuxième partie du brevet qu'a déposé Nintendo.
Ça veut dire pouvoir
passer en fait d'une scène à une autre du jeu. Et de te dire, ah bah voilà, je vais continuer le jeu à partir de là, ou recommencer à partir d'ici, etc.
Quand par exemple, on n'arrive vraiment pas à franchir une situation...
Voilà, pouvoir la zapper en fait.
D'accord, mais tout en voyant ce qui s'y passe quand même.
Voilà, tout à fait, ce qui permet... par le biais de vidéos, etc.
Voilà. Donc finalement, parcourir l'aventure un peu comme un livre, plus comme un film que comme un jeu.
Une aide vraiment interactive et qui te permet de ne pas perdre le fil en plein dans le jeu, quoi. Mm-hmm. Voilà, ce serait à peu près ça. Après, bon, évidemment, c'est qu'un brevet pour l'instant, il faut voir... Mais on connaît l'esprit Nintendo qui veut toujours innover, proposer des nouvelles choses, et là toujours maintenant dans la tendance casual, proposer un Zelda qui ferait pas peur peut-être.
Mais moi je trouve l'idée vraiment bonne. Ça veut dire que pour les gamers, on n'est pas obligé de le faire. Alors après, ce qui est dangereux, c'est la tentation de le faire. En plus, en rappelant aussi que dans ce brevet, ils disent qu'a priori on pourra pas sauvegarder si on passe ce genre de séquence, ou pas toutes. Ça veut dire que quand on a envie d'être gamer, on peut découvrir, mais il faudra quand même jouer certains passages clés pour pouvoir continuer l'aventure. Moi, je trouve ça plutôt bien. Le gamer va continuer sa quête, tandis que le casual peut découvrir l'aventure d'un nouveau Zelda sans vraiment se prendre la tête comme un malade s'il n'y arrive pas.
Mais
quoi.
Je pense que c'est surtout arrivé à tout le monde d'avoir un jeu que t'as pas fini parce qu'il y avait un truc qui te galérait, et puis voilà, et t'as quand même le droit de voir la fin de ton jeu, quoi. Donc voilà, déjà rien que pour ça. Et puis c'est pas la première fois que Nintendo simplifie et surtout pas un Zelda. Moi, ça m'avait beaucoup marqué quand ils avaient automatisé le saut.
Ouais, on en avait
quand même quelque chose dont on n'avait vraiment pas l'habitude avant. Et puis ça a été repris de multiples fois et aujourd'hui, ça choque plus tant que ça.
Et c'est même plutôt bien parce que du coup, ça permet de se concentrer sur d'autres choses.
Exactement.
Puis c'est la tendance, on n'y peut rien. Maintenant, tu vois le dernier Prince of Persia, il n'y a même plus Game Over. Donc.
Oui, mais je dirais que par, concernant Prince of Persia, cette absence de Game Over, Braid n'a pas de Game Over non plus.
Certes.
Et c'est pas.
Ah, mais
il faut pas.
Ça a un sens.
Oui, non, c'est sûr. Bon, bah, dans Prince of Persia, ils l'ont introduit avec un sens aussi. Mais disons qu'il ne faut pas forcément avoir peur de toutes ces innovations pour les gamers. Le jeu restera là.
Oui.
Normalement, en tout cas. Bon,
non, on verra bien. Hein.
En tout cas, pour l'instant, c'est un brevet. On attend de voir quand ça se concrétisera en jeu et en gameplay, surtout pour voir et surtout pour apporter un jugement plus qualitatif sur la chose. Angel, c'est la crise en ce moment. C'est la misère. Tout le monde est triste ou pas. Mais
et c'est
surtout...
ta faute.
C'est toi.
Je suis désolé. Pourtant, moi, je vous aime. Mais en tout cas, on avait dit que le monde du jeu vidéo allait passer finalement la crise de manière assez indolore, que tout allait bien se passer pour le divertissement, que la vague du cocooning allait ravir tout le monde et qu'on allait rester rivé à nos écrans. Néanmoins, depuis quelques semaines, ça vire à tout va. Hein. Du côté de Sony, on annonce plus de 8000 emplois qui sont supprimés. Alors, pas que dans la branche jeu vidéo, bien sûr. Chez Microsoft, on en vire aussi. Electronic Arts, c'est la même chose. Chez Disney, chez Crystal Dynamics, ça vire dans tous les sens. Et puis, après, il y aura une autre question que je te poserai, toujours un petit peu dans cette mouvance de « c'est la crise ». Qu'est-ce que t'en penses ? Parce que je sais que ça te choque au fond de toi, Angel.
La crise ? Déjà, pour le côté, pour qu'on nous dise « non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». C'est pas que les jeux vidéo, hein, on nous a dit ça sur à peu près tout, non ? Enfin, je sais pas, il y a des chefs de gouvernement qui nous ont dit, vous inquiétez pas, on va s'en sortir.
Ouais, en ce moment, ils nous disent, c'est vraiment la crise, hein. Serrer les coudes.
Ouais,
c'est
voilà,
serrons-nous les coudes.
C'est-à-dire que deux, trois mois plus tard, on finit par nous dire, bon, voilà, effectivement, c'est vraiment la grosse merde. De la même manière que deux, trois mois plus tard, on s'est rendu compte qu'un jeu vidéo, oui, c'était la grosse merde, quoi. Les actions, de toute façon, à l'époque de la crise bancaire, les actions de quasiment tous les éditeurs avaient dégringolé, mais d'une manière phénoménale, quoi. Electronic Arts, Ubi, Activision, enfin, tout le monde. Tous les gros éditeurs ont perdu gros.
Et justement, puisque tu parles de crise bancaire et les réactions que ça peut avoir sur les éditeurs, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, Ubisoft publiait ses résultats, avec un résultat certes en retrait par rapport à ce qu'ils avaient prévu, je crois à 1,4 milliard de dollars de chiffre d'affaires, là où ils prévoyaient 1,5 milliard de chiffre d'affaires, donc il y a un 600 millions d'écart, c'est énorme, et à la fois c'est pas tant que ça, et ben pourtant dans la journée c'est moins 23% pour l'action, et justement, on revient là-dessus, Crystal Dynamics qui a donc viré des employés parce que Tomb Raider ne s'est pas vendu aussi bien qu'escompté. Pourtant, Tomb Raider, le dernier, hein, qui est bon d'ailleurs, Underworld, s'est quand même vendu à 1,3 million d'exemplaires. J'ai envie de dire, c'est pas si mal. Et Ubisoft, dans le même temps, parle de décollage lent au sujet de Prince of Persia, alors qu'il s'est quand même déjà vendu dans le monde à 2,2 millions d'exemplaires. Alors, est-ce que ça devient pas un peu n'importe quoi ? Est-ce que les seuils de rentabilité avec les jeux next-gen sont pas trop important et du coup mettre un peu en péril et que les jeux doivent se vendre à des millions d'exemplaires.
C'est ça, c'est exactement n'importe quoi.
Je suis pas sûr qu'on parle de seuil de rentabilité, on parle vraiment des brousoufs à faire rentrer dans les portefeuilles des actionnaires.
Ouais, mais ça dépend. Enfin, mais en même temps, tu vois, ça devient n'importe quoi parce que par exemple, Ubisoft qui se plaint d'un démarrage lent au sujet de Prince of Persia, alors que justement franchement, enfin, souvenez-vous quand Prince of Persia était sorti, il y avait 1 million de blockbusters à côté. Il y en avait vraiment 1 million, quoi. Et les mecs, c'est-à-dire faire 2,2 millions entourés d'une telle masse de bons jeux, parce que ça reste des bons jeux, franchement, c'est pas un terme à argent, quoi. C'est une super performance. Hein. Ils devraient être contents.
Surtout qu'il est sorti en décembre et pas en novembre, comme les autres.
Ouais, enfin, cela dit, il aurait pu s'appeler Mirror Edge aussi, tu vois.
C'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai que proportionnellement au gros blockbuster Ubisoft de l'année précédente, qui était Assassin's Creed, qui lui s'était vendu à plus de 6 millions d'exemplaires, ils sont pas du tout dans la même retombée.
Je pense qu'ils s'étaient habitués. Ouais. Je pense qu'ils étaient très contents.
Ouais, mais enfin bon, James Cameron, il a fait un Titanic dans sa vie, quoi. Tu vois, quand il a fait le film suivant, on lui a pas demandé de faire encore je sais pas combien de millions d'entrées.
Oui, mais ce que veulent les actionnaires, c'est que tu fasses mieux à chaque fois.
Ouais, voilà. Mais tu vois, l'idée, c'est pas parce que tu fais un super hit une fois que non. Enfin, moi en plus, je mets ça sur le dos des coûts de production. Et de production et de communication aussi bien en termes de marketing parce que faut ici y penser hein. On voit de plus en plus de pubs pour les jeux vidéo à la téloche et ça pareil ça a un prix, enfin la communication je pense que les budgets de communication ont explosé beaucoup plus que les budgets de développement
sur certains titres, c'est vrai, mais ça reste des exceptions quand même, à part chez Nintendo qui nous fait encore de la pub pour Mario Kart et Mario Galaxy, oui. Des jeux de l'année dernière
et Wii Sport
bien sûr.
Vendu et puis n'oublions pas qu'effectivement Nintendo est dans une autre galaxie justement puisque on le rappelle par communiqué officiel, ils ont quand même annoncé, et ça je trouve ça incroyable, à la fois c'est vrai, mais quand même, que l'année dernière, en 2008, ils avaient généré 99% du chiffre d'affaires global du jeu vidéo en évolution de marché. dit comme ça, ça a l'air surréaliste, et pourtant quand on le vérifie, c'est vrai. C'est quand même assez colossal hein, de se rendre compte de l'importance de Nintendo aujourd'hui.
Et la thune qui se fonde surtout.
Ouais, c'est pas le même monde. Hein. La crise, en tout cas, ne touche pas Nintendo, même si même leurs actions ont baissé aussi, parce qu'effectivement, on parlait des actionnaires.
Mais ça, c'est mécanique derrière. Mais bon, c'est mécanique derrière.
Vraiment.
Oui, ils ont d'ailleurs commenté à propos de cette crise en disant que eux, ça ne les regardait pas. Hein. Ils ont été très contents de pouvoir dire ça aussi. Hein.
Enfin, chez eux, c'est vraiment ma petite entreprise qui connaît pas la crise. Enfin, sauf que là, c'est ma super multinationale ne connaît pas la crise.
C'est ça.
Bon, en parlant d'essayer d'évacuer la crise, Sony, en tout cas, l'une de ses manières de réagir, c'est peut-être innover. La PSP connaît des ventes très raisonnables hein, pour leur première console portable, en tout cas, même si elle reste clairement bien en deçà de la DS en termes de ventes. Hein. Mais du coup, on est visiblement en train de préparer l'arrivée d'une PSP 2. C'était en rumeur depuis plusieurs mois. Et puis, là, les rumeurs se précisent un petit peu. Julo, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées.
Ouais, ça reste des rumeurs. Hein, ça reste des rumeurs. Mais en gros, pour faire un point, il y avait d'abord le coup de Imagination Technologies qui aurait été choisi en fait pour créer le processeur de la future PSP2, l'éventuelle PSP2. Ensuite, on a appris que processeur graphique. Pardon. On a appris ensuite que il y aurait éventuellement d'abord une PSP 4000 qui sortirait fin 2009 et que la PSP2 viendrait juste après, ce qui paraît un peu logique.
PSP 4000.
Ouais, voilà, donc le quatrième modèle de PSP. Non, là en fait, ce qui a relancé un peu le truc, c'est que t'as un journaliste donc d'IGN aux États-Unis qui l'a affirmé, voilà, sans citer ses sources évidemment, mais en disant que c'était des sources très fiables, etc., que la PSP2 aurait un écran plus large et qui serait tactile à multipoint, donc comme l'iPhone en gros.
Sauf que c'est pas possible, voilà. Puisque l'iPhone maintenant, ils ont le brevet.
Ouais.
Ta-da-da-da.
Du multipoint, non ?
Ouais, si, ils ont le brevet.
Cette semaine, Julo.
Sérieux ?
Tu devrais regarder sur Internet.
ils ont pas le brevet du multitouch.
Donc ouais, plus personne peut faire de multitouch.
Non. Enfin, si, ou alors faut payer.
Si,
tu payes.
Il faut aller voir Steve et ça c'est mon chéquier, ça c'est mes burnes. Tu veux quoi ?
Tu fais les royalties quoi.
Ah ouais.
Voilà. Non, ça y est, c'est fait.
Non mais ouais, mais alors attention, ils ont le multitouch avec le pouce et l'index. Mais si on fait avec l'index et le majeur,
non, t'inquiète,
c'est pas Apple ça.
Microsoft aussi, ils sont super baisés avec
Surface.
Par rapport à Surface.
Non, ils ont réussi à avoir le brevet.
Ah oui, ça fait très 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 mal ça.
Je crois qu'ils sont un peu contents.
On imagine mal Sony reverser à Apple des royalties.
Non mais c'est surtout attends sur cette histoire, il n'y a pas Sony qui a juste traité IGN de médias la petite semaine et que vraiment les journalistes, c'est devenu n'importe quoi, parce que il me semble avoir lu un truc comme quoi ils se sont fait super bâcher derrière par Sony.
Oui, à la fois, je pense que si c'était vrai et que tu veux lancer ton truc dans 6 mois, 9 mois, t'es pas content qu'on le sache.
C'est clair.
En tout cas, ce sera vraiment à suivre, mais on passe rapidement dessus, hein, parce que pour l'instant, ça reste à l'état de rumeur, voilà, hein, mais effectivement, le fait quand même que les rumeurs arrivent de plus en plus fréquemment, de plus en plus fortes, prouve qu'en tout cas la PSP2 risquerait d'arriver dans un avenir plus ou moins proche.
Ou alors que l'audience d'IGN baisse.
Peut-être. Mais le truc, c'est que c'est... Mais le truc, c'est que c'est relayé quand même par plus qu'IGN. Mais pour parler de prospective et pour conclure vraiment ce podcast, il y a Yves Guillemot, Ubisoft, le patron d'Ubisoft, qui commence à évoquer, lui, le premier grand patron à parler de chiffres hein, pour la next-gen. Donc les consoles qui remplaceront la PS3, qui remplaceront la Wii et qui remplaceront la Xbox 360. Lui, il annonce clairement un horizon 2011-2012, qui est l'horizon que pour l'instant tout le monde avait à peu près imaginé d'ailleurs.
Hein. Oui, ça, il n'y a pas besoin d'être chef. Hein.
Voilà, mais néanmoins, ça confirme...
Ça serait un cycle de 7 ans
voilà.
pour la Xbox 360 et de 6 ans pour la PS3. Donc
enfin, un cycle, elle continuera à vivre derrière, mais
le truc,
avant l'arrivée.
Voilà, quand Sony et Microsoft parlent de cycle de vie, ils ne parlent pas du cycle jusqu'à la sortie de la prochaine console, peut-être. En fait,
ah bah, c'est sûr, même.
Ils parlent du cycle de vie, regarde la PS2, combien de temps elle a vécu après l'arrivée de la PS3.
Elle continue de vivre.
2008,
continue
à très bien vivre, hein. La PS2 reste la console la plus jouée au monde en 2008. Donc, elle continue à vivre, et bien.
Donc, voilà.
Sony aimerait qu'elle vive moins bien, d'ailleurs. Et qu'elle laisse sa place à sa petite sœur maintenant.
Fallait la faire moins chère, la gars.
Ça voudrait dire qu'au prochain E3. Ou oui.
Mais moi, je maintiens qu'au
prochain E3, je pense qu'on va déjà peut-être entendre parler de certaines choses. Ou alors, on va dire au suivant.
Moi, je pense pas. Trop tôt.
2009.
Ils ont perdu trop de pognon pour
allez,
trop
2010.
De trucs, hein.
Ouais, moi, je pense qu'en 2010, obligé, on en entend parler. Si la console est prévue pour 2012.
C'est nul comme conversation. Franchement, tout le monde fait ça, Madame Irma. Alors, sans avoir aucune base, okay, rien.
Bah, si, okay. Si.
Non, mais je vous applaudis pas.
Si on se base sur 2012, ils vont, a priori, commencer à en parler sérieusement en 2010. Je pense.
Ouais, je suis assez d'accord avec Julo.
Moi, je veux
ça veut dire qu'on peut parler sérieusement, ça veut dire parler officiellement.
Ouais, officiellement.
Vous oubliez un
point
essentiel Et là, je suis super terre à terre, c'est que c'est la crise, les gars. Et donc, à mon avis, le budget recherche et développement, il a fait comme ça, il a fait pshh.
ça c'est une certitude. Vraiment pour conclure, et parce que toujours on est dans la prospective, Café Julo, je sais qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup marqué en ce premier mois 2009, c'est le retour incroyable des lunettes 3D. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On croyait que c'était complètement has-been. Non,
c'est pas que c'était has-been, c'est que ça filait mal au crâne, donc c'était un gimmick, c'était rigolo, etc. Mais là en fait, la technologie est ressortie. Il faut savoir que c'est un truc qui a déjà existé, je veux dire. Donc les lunettes 3D qu'on branche sur un PC ou de toute façon sur n'importe quoi techniquement on peut le faire, et c'était arrivé avec des cartes 3D il y a des années genre 95-96, un truc comme ça. Ça file un mal de crâne à peu près instantané, c'était pas mal, c'était une pub pour Advil le truc quoi. Et là ils sont maintenant sur des nouvelles technologies, donc Nvidia, TI, tout le monde s'y a remis parce que effectivement maintenant il y a un nouveau système qui permet d'avoir des lunettes actives, donc qui sont branchées sur le courant, branchées sur le PC, qui vont avoir des petits écrans LCD en fait qui vont boucher la vue d'un œil sur
comme au futuroscope, en fait.
Voilà, exactement. Mais très, très vite, suffisamment vite pour qu'on ait pas mal au crâne. Mais attention, ça ne marche, et ça, c'est un peu le problème de cette techno, ça ne fonctionne que sur des écrans adaptés. C'est-à-dire qu'il faut un écran à 120 Hz. Donc, un des écrans LCD qui sont plus chers que ce que 99,9% des gens ont. Mais par contre, le résultat pour tous ceux qui l'ont testé, c'est que ça déchire. Donc, j'ai des potes et j'ai pas pu le voir, donc je suis assez dégoûté. Mais qu'on joue à Left 4 Dead pendant une semaine avec ce système-là. Et là, effectivement, quand la horde de zombies t'arrive sur la tronche et commence à sortir de l'écran, tu flippes pour de vrai. Donc, c'est un système qui, s'il fonctionne très bien, on aura peut-être l'air de débile. Et Nvidia a fait une phrase qui m'a bien fait rire. C'est qu'effectivement, tout le monde dit oui, maintenant, on va jouer avec des lunettes 3D sur la gueule. Alors, des gens se faisaient vanner parce qu'on jouait aux jeux vidéo, alors si on se met des lunettes sur le nez, et puis là les mecs ont fait ouais d'accord, en même temps il y a des millions de gens qui jouent avec des guitares en plastique, alors finalement c'est pas très grave.
Bon bah c'est bien, après avoir fait la publicité pour Advil, maintenant ils feront la publicité pour les pacemakers quoi, donc ce sera super. En tout cas des grands noms travaillent dessus.
Voilà,
donc,
ça va arriver commercialement, il y a déjà un produit, donc Nvidia. Ouais.
Et puis au cinéma ça arrive aussi assez fort en 2009.
À noter que le véritable boom de la 3D il va se passer dans les mois qui viennent, et ça sera au cinéma, et Peter Jackson et des tas d'autres réalisateurs et des gros
James Cameron
productions.
Avec son Avatar prévu pour décembre 2009. Ouais.
Et tous ces films là sont tournés avec cette technologie qui est différente parce que c'est
là,
pas du tout
c'est des lunettes à la con là.
Voilà, c'est des lunettes à la con, mais la façon dont ils font les films après, dont ils les tournent
là, par contre je suis plus dubitatif. Le système avec les lunettes
apparemment
actives,
ça marche super,
hallucinant quoi.
Mais en tout cas ça peut permettre de généraliser, populariser le fait de porter des lunettes pour voir un contenu en 3D.
Là c'est au taquet, il y avait le Super Bowl donc ce week-end, il y a eu une promo pour un épisode de Chuck qui est une série qui passe actuellement là, hier sur TF1, qui est assez marrante, et il y a un épisode qui est passé hier en 3D avec les lunettes qu'il fallait retirer. Ils ont mis des 125 millions de lunettes 3D dans différentes, en tout une grande chaîne de supermarchés américaine.
Ils avaient déjà fait ça pour la créature du lagon noir.
Exactement.
Tac.
Et ça, c'est de la référence.
Eh ouais, mon gars. C'était il y a une vingtaine d'années à peu près.
Ça me fait marrer.
Eh ouais, c'est ça d'avoir 32 ans, les enfants.
C'est le retour. C'est le retour de ce gimmick. Ah, maintenant, ça se trouve, au mois de novembre, tout le monde aura déjà oublié. Hein. Mais pour l'instant, en tout cas, ils sont à fond dessus.
Ok, bon, en tout cas pour conclure ce podcast, on rappelle qu'un lundi sur deux, vous avez un autre rendez-vous audio sur gameblog.fr et aussi sur LCI Radio, puisqu'il s'agit du LCI Game Club. Alors pour ceux qui ont pu déjà découvrir les deux premières émissions, vous le savez, il y a encore plein de choses à améliorer bien sûr, mais en tout cas toute l'équipe est vraiment au rendez-vous et vous écoute pour voir un peu ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, et donc adapter l'émission. On rappelle aussi que LCI Game Club, c'est pas du tout une émission qui est là pour faire ni concurrence, ni phagocyter le podcast de Gameblog, c'est un complément, vous le voyez d'ailleurs, l'actu qu'on traite sur Gameblog et sur le LCI Game Club est différente, donc c'est pour vous l'occasion d'avoir deux traitements de la formation jeux vidéo, deux traitements une fois toutes les deux semaines et une fois toutes les semaines avec le podcast de Gameblog qui reste bien évidemment toujours là, toutes les semaines, fidèle au rendez-vous, et puis vous le voyez, il n'a pas changé d'un iota. Voilà, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un podcast qui sera une belle saga sur une console mythique, tout simplement. On vous en dit pas plus, on aura un invité parmi nous. On vous donne donc rendez-vous dans une semaine. Bah oui, une semaine, toute pile. Allez, à la semaine prochaine, jouez bien et surtout portez-vous bien. Ciao, ciao.
Ciao.